Il lui a recommandé d'écrire une lettre au pape, compte tenu que c'était le cardinal Ouellet. Chose qu'elle a fait parce que les autorités du diocèse étaient au courant de la situation.
Je vous dis juste qu'à partir du 29 août, prenez vos rendez-vous.
Bonne fin de journée tout le monde. Le cardinal Marc Ouellet, qui avait été pressenti pour devenir pape, est visé par une allégation d'agression sexuelle. Son nom figure sur une liste de nombreux membres du personnel ou des prêtres de l'archidiocèse de Québec, rendue publique dans une procédure judiciaire déposée aujourd'hui. Le cardinal québécois de 78 ans est l'un des plus influents au Vatican. Et cette nouvelle, eh bien, ça tombe moins d'un mois après la visite du pape François au Canada, dont au Québec, pour s'excuser du comportement de membres de l'Église catholique dans les pensionnats autochtones, visite auquel le cardinal Marc Ouellet avait participé. Alors, j'en parle avec ma collègue Fanny Lachance-Paquette. Bonsoir, Fanny.
Bonsoir, Sabrina.
Donc, ce sont des accusations plutôt récentes pour ce qui est du cardinal Ouellet. On parle de faits qui sont survenus en 2008.
Oui, d'emblée, il faut dire qu'il n'y a pas d'accusations criminelles qui sont déposées contre le cardinal Ouellet. C'est vraiment une procédure civile. Mais effectivement, dans ces dossiers-là de l'action collective, il y a une plaignante qui est nommée comme sa plan F, qui, elle, bien, rapporte qu'elle était agente de pastorale en 2008. Elle a fait son stage au diocèse de Québec. Elle avait à l'époque 23 ans et elle a rapporté plusieurs rencontres avec le cardinal Ouellet lors de divers événements où elle a trouvé son comportement déplacé. Ça l'a souvent rendu mal à l'aise. Et dans ce document de l'action collective, bien, elle rapporte quelques-uns des événements qui sont survenus, notamment une rencontre où le cardinal, je la cite, Marc Ouellet, lui dit que c'était la deuxième fois qu'il se voyait cette semaine-là, qu'il peut bien l'embrasser à nouveau parce qu'il n'y a pas de mal à se gâter un peu. F trouve que c'est plutôt inapproprié comme commentaire. Et là, le cardinal Ouellet l'embrasse et glisse sa main le long du dos de F jusqu'à ses fesses. F, par la suite, a parlé de ces événements-là avec le Comité Conseil pour les abus sexuels envers mineurs et personnes vulnérables de l'Église catholique. Les gens à qui elle a parlé lui ont dit que c'était effectivement des comportements d'inconduite sexuelle qu'elle avait vécu.
Ben oui.
Et on lui a même proposé d'écrire au pape à ce moment-là ce qu'a fait F. Alors là, on est en janvier 2021.
Ouais.
Il y a même une personne, le père Gervais, qui a été, lui, attitré à enquêter sur le cardinal Ouellet. Mm-hmm. Et après mars 2021, elle n'a rien entendu.
Plus,
plus aucune nouvelle concernant l'enquête. Et là, ben, c'est pourquoi elle a décidé aujourd'hui de participer à cette action collective. Et j'ai demandé, moi, à l'avocat qui est en charge de l'action collective, pourquoi justement le nom de Marc Ouellet sortait aujourd'hui.
C'est pas fait en fonction de F, là. C'est la procédure habituelle où on fait état de la situation des deux demandeurs et d'un certain nombre de victimes. Et une de ces victimes était F. On trouvait que c'était significatif de mettre le dossier F, qui a été aussi victime d'un autre prêtre, faire état de qu'est-ce qui lui est arrivé, parce que les autorités du diocèse étaient au courant de la situation.
Donc, le cas de F, en fait, ça s'inscrit dans une vaste action collective qui touche pas seulement le Marc Ouellet.
Non, pas du tout, parce qu'il y a au moins une centaine de personnes qui ont porté plainte. 88 personnes, au moins, du diocèse de Québec, jusqu'à maintenant, ont été nommées, ciblées. Et parmi bien, les demandeurs, il y a, entre autres, Gaétan Bégin, il est l'instigateur de cette grande action collective. On l'a rencontré aujourd'hui.
Bon, j'ai été agressé à l'âge de 13 et 14 ans. Mais ça a duré pratiquement 3 ans. Aujourd'hui, c'est de réparer ce que la religion catholique a brisé. Là, c'est ça là, qui presse. C'est pas facile, mais pour le bien, pour ma guérison personnelle, puis pour les générations futures, j'ai décidé de briser le silence. C'est un cauchemar que j'ai hâte qu'il finisse.
C'est important, Sabrina, de dire que l'action collective est toujours à la recherche de victimes. Donc, si vous avez été victime, soit du diocèse de Québec ou encore dans un autre cours parallèle des Frères des écoles chrétiennes du Canada francophone, il est temps de vous manifester.
Merci beaucoup, Fanny.
Merci.
Et le premier ministre, le ministre de la Santé, le directeur national de la Santé publique, ce fameux trio santé hein, qui ont tenu un point de presse aujourd'hui ensemble pour la première fois depuis plusieurs mois. Le gouvernement a lancé la campagne de vaccination en fait automnale en prévision de la rentrée scolaire et d'une éventuelle, et oui, 8e vague de la pandémie. On va aller rejoindre Simon Bourassa qui est à Québec. Bonsoir, Simon.
Salut, Sabrina.
Donc, la santé publique, en fait, recommande de recevoir une nouvelle dose de vaccin s'il s'est écoulé, dans le fond, 5 mois depuis la dernière dose.
Oui, et ce, peu importe le nombre de doses que vous avez reçues jusqu'à maintenant, le ministre de la Santé qui l'a rappelé, on n'en est plus à compter les doses, une, deux ou trois, là. On parle tout simplement de 5 mois. Et si vous avez contracté la COVID-19 récemment, bien, il faut attendre, bien sûr, 3 mois avant de recevoir une dose de rappel. Vous allez voir sur le calendrier, là, les 75 ans et plus, c'est dès maintenant qu'ils peuvent prendre rendez-vous via Clic Santé. Lundi prochain pour les 60 ans et plus ou pour les gens de 12 ans et plus qui sont immunosupprimés. Et puis pour la population en général là, de 18 et plus, ce sera à compter du lundi 29 août. Cela dit, d'entrée de jeu, on anticipe une 8e vague de COVID cet automne, mais la santé publique qui n'a pas l'intention de recommander des mesures populationnelles. Le premier ministre l'a rappelé aujourd'hui et en a profité aussi pour réitérer l'indépendance de la santé publique par rapport aux politiques. On écoute François Legault.
La santé publique ne recommande pas de mesures obligatoires et prévoit pas en septembre avoir à n'en recommander. Par contre, la santé publique et puis aussi le CIC qui se rapporte à l'INSPQ qui fait des recommandations à la santé publique reste toujours libre de faire des recommandations au gouvernement pour mettre des mesures obligatoires.
Et donc là, Simon, le ministre de la Santé déconseille aux gens, en fait, d'attendre qu'un nouveau vaccin soit plus efficace et de prendre celui qui est actuellement disponible.
Oui, exactement, parce qu'on sait qu'il y a le nouveau vaccin de Moderna qui est bivalent, là, qui est bon autant pour les anciennes souches que pour le variant Omicron qui a été homologué par le Royaume-Uni il y a quelques jours de ça. Donc, ce que dit le ministre de la Santé, c'est de ne pas attendre ce vaccin, d'aller chercher celui qui est disponible. Maintenant, combien de doses ça va prendre? On a posé la question à la docteure Caroline Couache. Difficile de répondre.
Les vaccins ARN messagers ont quand même bien fait leur travail, mais en termes de durabilité, on voit que, surtout avec les nouveaux variants, la réponse à long terme n'est pas là. Donc, les chercheurs sont présentement à développer d'autres types de vaccins qui soient intranasaux ou basés sur d'autres technologies, mais on ne pourra pas savoir vraiment si la durabilité va y être avant d'avoir vu les résultats des études cliniques. Donc, on attend comme vous là, de voir les prochains vaccins.
Voilà, et maintenant, on passe de Simon au docteur Alain Vodeboncœur, notre collaborateur. Voilà, bonsoir, Alain.
Salut Sabrina.
Donc, d'après toi, c'est une opération qui est nécessaire, en fait, pour limiter la propagation à l'automne?
Bien, tu sais, l'automne, c'est une grande inconnue. Hein? On ne sait pas trop ce qui va arriver. Est-ce qu'il va y avoir beaucoup de cas? Pas beaucoup. Il y a de nouveaux variants qui se promènent. Ça serait assez étonnant qu'il n'y ait pas une montée des cas à l'automne. De quelle ampleur? Je pense que c'est de la prévention qui est faite là. Évidemment, c'est beaucoup centré sur la vaccination, on l'a vu. Mais bon, c'est une prévention certainement nécessaire, là, compte tenu de... Tu fais qu'on n'en est pas sorti encore.
Mais non, effectivement. Puis la réponse, elle est quand même plutôt faible pour la troisième dose. Là, imagine, on est rendu à la quatrième dose pour les adultes de 18 ans et plus. Qu'est-ce qu'il va falloir faire, dans le fond, pour convaincre les Québécois, Québécoises, pour aller de l'avant, en fait, avec la vaccination?
Il y a deux choses. Je pense qu'aujourd'hui, on voulait quand même marquer le coup. C'est quand même la première fois qu'on voyait le premier ministre, le ministre de la Santé, ensemble avec la santé publique. Donc, je pense que c'est peut-être la présentation inaugurale de l'automne qu'on voyait là. Mais d'autre part, on va voir ce qui va se passer. En général, on le sait, les gens ont tendance à suivre davantage les orientations proposées quand il y a beaucoup de cas, quand ça monte dans les hôpitaux, quand ça va moins bien. Et donc, j'espère qu'il ne faudra pas attendre ça. Je pense qu'il faut faire de la prévention, mais effectivement, j'ai l'impression que les gens sont un peu plus difficiles à convaincre actuellement. Moi, j'encourage surtout les gens, en particulier qui sont à risque, qui sont plus âgés, qui ont des maladies chroniques, à vraiment aller chercher leur dose de rappel.
Exactement. Puis on parlait, on l'a su hier, là, mais que la Grande-Bretagne a approuvé le vaccin de Moderna, qui est efficace contre, en fait, la souche originale et celle d'Omicron. Le ministre de la Santé, quand même, a dit qu'on ne devrait pas attendre quand même cette version-là. Est-ce que toi aussi, tu penses la même chose?
Bien, d'abord, il faut comprendre qu'il n'y a pas tant de différence entre les vaccins. Il y a une certaine efficacité supplémentaire, un peu plus d'anticorps développés, si on veut. Ceci dit, les variants qui vont être là, ce n'est pas ceux sur lesquels ont été testés ce vaccin-là. Je pense que le message principal, c'est que le vaccin fonctionne contre les complications. Et c'est ça, c'est là-dessus qu'il faut miser. Il ne faudrait pas attendre, disons, 2-3 mois, parce qu'on manquerait peut-être le bateau à ce moment-là.
C'est ça, effectivement. Mais les gens, je pense, se demandent, ça va être quand la dernière dose? Parce qu'après la troisième, la deuxième, on dit, bon, vous allez être correct. Là, finalement, on est rendu quand même à la cinquième pour les gens qui sont un petit peu plus âgés. T'en penses quoi, toi aussi? Quand est-ce que ça va finir, tout ça?
Ben, si on était toujours avec le même variant, peut-être que ça serait plus facile. Mais c'est un virus qui a une telle capacité de changer qu'inévitablement, malheureusement, il contourne les défenses qu'on met en place. C'est bien malheureux, mais c'est la réalité à laquelle on fait face actuellement.
Effectivement. Donc, on essaie quand même de se protéger avec ce vaccin-là. Merci beaucoup, Alain.
Oui.
Mettre fin à l'âgisme systémique, c'est ce qu'exige l'Association québécoise de la défense des droits des retraités. À quelques jours du début de la campagne électorale, la QDR lançait aujourd'hui son manifeste pour les droits des personnes âgées. Ce qu'on demande, entre autres, c'est un revenu viable et un accès au logement.
Pour un citoyen en pleine forme qui peut travailler dans la ville de Montréal, ça lui prend un revenu de 29 000 $. Alors que les retraités, 49,5% des retraités n'ont pas ce revenu-là, ont en bas de ce revenu-là. Et 33% ont un revenu d'à peu près 21 000 $ annuellement pour vivre. Alors, à 21 000 à Montréal, c'est très, très pénible.
Statistique Canada avait quand même des nouvelles encourageantes aujourd'hui parce que le taux d'inflation est descendu sous la barre des 8 % pour atteindre 7,6 en juillet. C'est une diminution qui s'explique entre autres par la baisse des prix de l'essence. Mais reste que l'inflation continue d'affecter nos dépenses au quotidien et c'est le cas du panier d'épicerie qui coûte de plus en plus cher. On essaye tous, évidemment, de faire des économies, mais ça reste que c'est pas facile. Et d'ailleurs, bien, il y a le magazine Protégez-vous qui a mené une enquête pour savoir quelle épicerie coûte la moins chère pour faire ses courses. Et pour en parler, Sylvain Charlebois, il est professeur en agroalimentaire à l'Université Dalhousie. Bonsoir, M. Charlebois.
Bonsoir.
Donc, l'enquête démontre qu'il peut y avoir toute une différence entre les prix sur les tablettes, mais comment on explique ça, qu'une épicerie coûte plus cher qu'une autre?
Bien, c'est l'expérience, c'est l'adresse, c'est l'endroit. Vous savez, lorsqu'on visite un supermarché, il y a tellement de choses qu'on n'achète pas, mais qu'on paye pour, finalement. Souvent, les magasins à rabais n'ont pas d'artifice, carrément. Mm-hmm. C'est très simple. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui boudent ces magasins-là, parce que c'est carrément plate. C'est dole de visiter ces magasins-là. Mais ces temps-ci, avec un taux d'inflation de 10 % j'encouragerais les gens d'aller visiter un supermarché à rabais une fois de temps en temps. Vous allez voir, la différence est énorme. Là. Partout au pays, au Canada, incluant le Québec, là, la différence est énorme.
Oui, effectivement. Puis c'est clair que les plus gros joueurs achètent plus, donc ils peuvent le vendre peut-être moins cher. Donc, c'est sûr que c'est peut-être plus difficile d'aller encourager peut-être une petite épicerie locale, par exemple, où là, on doit s'attendre possiblement à ce que les prix soient plus chers aussi, là.
Oui, ordinairement, c'est sûr que le pouvoir d'achat n'est pas là, mais parfois, vous savez, les indépendants, les petits marchands, parfois vont offrir de petites aubaines ici et là pour attirer une clientèle. On appelle ça un produit de rappel. Là. Mm-hmm. Les grandes chaînes le font, mais les petits indépendants aussi. Là.
Oui, effectivement. Puis quels sont les aliments qui ont subi la plus haute augmentation de prix au cours des derniers mois, par exemple?
Les produits laitiers et la boulangerie, surtout. Écoutez, dans le cas du beurre, là, au Québec, là, 24 %
en
un an.
C'est énorme, hein?
Oui, le lait liquide. Mais en fait, ce qui arrive, là, c'est que la Commission canadienne du lait a décidé d'augmenter le prix du lait à la ferme. Ben, ça nous rattrape tranquillement pas vite là, cet été comme consommateur. Et cet automne, encore une fois, il y a une autre hausse qui arrive, 2,5 %.
Oui, c'est vrai.
Lorsque les enfants vont retourner à l'école, là, j'ai l'impression qu'il va y avoir une autre hausse là, à la section des produits.
Bien, effectivement. Puis on parlait aussi de la guerre en Ukraine, que ça allait avoir peut-être un impact sur les prix. Ça a été le cas pour notamment certains items. Là. Mais là, on a vu la reprise des exportations, notamment avec le blé. Est-ce qu'on peut s'attendre à une baisse, par exemple, de nos céréales?
Les choses se calment. Donc, on garde le prix des denrées. Là. Les prix sont à la baisse. Donc, c'est une bonne nouvelle. Les choses se calment tranquillement, pas vite. Si on regarde le taux d'inflation alimentaire au Canada depuis avril, là, c'est pratiquement une ligne droite. C'est sûr qu'on est à 9 % mais quand même, les choses sont sous contrôle.
Ça commence à se stabiliser. Puis quand même, regarder les circulaires, moi, c'est mon activité le week-end.
Le plus
c'est
possible.
Toujours pratique.
Le plus possible.
Voilà, oui, merci beaucoup, M. Charlebois.
Au revoir.
Opération Sac à dos, du regroupement Partage est de retour cette année pour distribuer du matériel scolaire à des enfants défavorisés. Mais l'inflation fait mal à plusieurs organismes qui tentent d'aider les jeunes dans le besoin. Moins de familles reçoivent de l'aide alors qu'il y a de plus de demandes que jamais. C'est ce que ma collègue Anaïs Elbouche-Daini a constaté.
La différence cette année, c'est qu'on va pouvoir aider à peu près 5 000 enfants et leurs familles au niveau d'un sac à dos par enfant versus l'année passée où on était à 7 000. Donc, la différence, elle est énorme. Et juste pour vous donner une idée de grandeur, 5 000 enfants sur l'île de Montréal représentent 5 % seulement des besoins réels des enfants vivant dans la pauvreté. C'est crève-cœur de devoir faire une sélection, un tri de qui en a, qui en a pas.
Salut! Ça va bien, toi?
On est supposé recevoir 400 enfants de primaire. Et de secondaire. C'est à la porte qu'ils vont se faire aider. Donc, il y a deux collègues qui vont donner et les sacs à dos remplis de fournitures scolaires et les denrées alimentaires.
C'est comme une, vraiment une grosse aide qu'ils nous donnent. Puis en plus, on a un cadeau ce matin, on a du dépannage alimentaire en plus. Fait que c'est super.
En quoi ça fait la différence pour vous?
Bien, ça permet qu'avec l'argent qui rentre, on paye les billes.
Et puis toi, tu rentres en maternelle? Est-ce que tu as hâte?
Oui.
Si on ajoute les effets scolaires ou même les vêtements, ça devient très difficile pour les familles de joindre les deux bouts.
Et la pandémie a augmenté la vulnérabilité des familles, puis a fait d'autres familles vulnérables. Puis là, récemment, on voit clairement l'impact de l'inflation. Avant, on recevait les gens qui sont sous le bien-être social ou qui travaillent avec un petit salaire, mais dernièrement, on reçoit des appels des parents que tous les deux travaillent, mais qui n'arrivent jamais à payer toutes les factures.
On a le choix ça, ça et ça. En donnant ces enfants-là, ils vont traverser un chemin assez difficile, mais ils étudient. Ils vont aller au cégep, ils vont aller à l'université, ils vont gagner leur vie, puis ça contribue dans notre société d'accueil. On sème les petites graines ici, puis après, on voit les fruits.
Moi, je questionne souvent, est-ce que quelqu'un qui arrive à l'école, un enfant qui arrive à l'école, est-ce qu'on devrait être en mesure, comme société, de fournir tout ce qu'il faut?
Sur l'île de Montréal, c'est, dans certains quartiers, c'est près d'un enfant sur trois qui vit en insécurité alimentaire. Et le même ratio, un enfant sur trois ne finira pas son école secondaire. Et dans certains quartiers, c'est un sur deux. Donc, plus tôt ils quittent l'école, moins ils ont de chances aussi, après ça, d'avoir un avenir qui est plus prospère au niveau économique, entre autres.
Depuis que les Russes ont envahi l'Ukraine l'hiver dernier, le pays est devenu, entre guillemets, un indésirable sur la scène mondiale. La Russie fait face à de nombreuses sanctions par les pays occidentaux, comme des fortunes gelées ou des saisies, de même que des athlètes qui ont été exclus de compétitions sportives. Pourtant, il y a le drapeau russe qui flottait sur un chapiteau du Cirque du Soleil jusqu'à tout récemment dans le Vieux-Port de Montréal, accompagné, bon, quand même de d'autres drapeaux, vous le voyez sur les images. Et pour en parler, j'accueille sur le plateau notre collaborateur Yves Boisvert. Salut Yves!
Salut!
Quelle a été ta première réaction quand tu as vu ça ce matin?
Bien, écoute, c'est sûr que d'enlever un drapeau, de mettre un drapeau, ça ne va pas changer le sort des Ukrainiens, on s'entend?
Non, ça c'est
sauf que ça a une portée symbolique importante. Et le Cirque du Soleil, c'est une entreprise multinationale qui est une des rares entreprises québécoises à être connue à travers le monde, qui fait appel à des athlètes de partout. Moi, ce qui m'a, disons, choqué le plus, c'est l'explication de l'entreprise qui a fini par enlever le drapeau.
C'est ce que je m'en allais dire. L'organisation dit que le Cirque voulait représenter son côté rassembleur en ayant le drapeau de la Russie, mais... C'est une explication un peu bidon, non?
Bien, c'est parce que il ne s'agit pas de blâmer les citoyens russes qui travaillent pour toutes sortes d'entreprises. La semaine dernière, il y avait le numéro 1 mondial au tennis qui s'appelle Daniil Medvedev qui est à Montréal. Il a le droit de jouer ici. Mais là, c'est un autre symbole. C'est celui du pays. Et ce pays-là, il n'est pas au banc des nations pour rien. Et cette invasion-là, elle est injustifiable. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Le gouvernement canadien l'a dénoncé. Il y a des enquêtes pour crimes de guerre. Oui. L'invasion elle-même est un crime de guerre. Et donc, on va prendre l'exemple du mouvement olympique.
Oui.
C'est un mouvement qui joue tout le temps avec ses contradictions politiques pour rassembler justement l'humanité. Bien, le mouvement olympique a dit « Les Russes vous ne serez pas dans les compétitions internationales.
Ben oui. Est-ce que ça bannit, pas bannir, mais est-ce que ça banalise enfin un petit peu le conflit en ayant mis ce drapeau-là?
Ben c'est ça que les Russes veulent, c'est-à-dire que, ben écoutez, tous les pays ont des conflits ici et là. Ah, ouais. Puis là, ça fait 6 mois, hein, on en parle moins.
Ben oui.
Et puis, donc, toute l'Europe est déstabilisée à cause de ça. Il y a plus d'un million de réfugiés, il y a des morts à tous les jours. Et donc, le fait que ça tombe un peu dans l'oubli, ça fait l'affaire de la Russie. Et c'est pour ça que même si c'est un petit symbole, c'est important de dire, écoutez, ça, on met ça de côté.
Puis en même temps, on parle de la guerre, de la Russie qui a envahi l'Ukraine, mais en même temps, ce sont les gens, les Russes, qui en payent aussi le prix, parce que c'est pas tous les Russes, nécessairement, qui voulaient de cette invasion-là.
Ben, oui.
Donc, est-ce qu'on met tous les athlètes, tous les mêmes gens, tu sais, tous les gens dans le même panier, un
non,
peu?
Non. Là, dans ce cas-là, les athlètes eux-mêmes ou les employés du
cirque, ben,
ils
oui.
ont le droit de participer.
Ben, oui.
Mais ceux qui payent le prix le plus, c'est les Ukrainiens. C'est ceux qui sont là et qui sont obligés de s'exiler et qui subissent des bombardements et des villes détruites au complet. Alors, donc ça, oui, il y a des citoyens russes qui vont payer le prix, mais à cause des décisions de Vladimir Poutine
et des
dirigeants militaires russes.
C'est un peu aussi, je veux dire, les Ukrainiens qui ont vu le drapeau possiblement dans le Vieux-Montréal. Ça a dû peut-être les choquer un temps de
avec, tout à fait. Avec raison, il faut être solidaire de ça.
Voilà. Merci beaucoup, Yves, d'avoir été avec
Merci
nous ce
toi.
Soir. Alors, il y a 45 ans, jour pour jour, Elvis Presley mourait d'un arrêt cardiaque à l'âge de 42 ans. On va parler avec Étienne Fortin-Gauthier, que tu vas animer le 22h ce soir. Et là, parle-nous d'Elvis. C'est toujours aussi bon 45 ans plus tard.
Ben oui, avec 1 milliard de disques vendus dans sa carrière, 1200 concerts aux États-Unis, 67 albums. Évidemment, il a marqué la musique. Et il y a même un film en ce moment qui lui rend hommage. Donc, on voulait lui faire un petit clin d'œil ce soir.
Ben oui, c'est toujours très bon de regarder ça. Et aux États-Unis, ben, la première dame des États-Unis est atteinte de la COVID-19.
Jill Biden, qui souffre de légers symptômes, elle va être traitée avec le Paxlovid, hein, le médicament qu'on a donné notamment à son mari, Joe Biden, le président, qui lui va un peu mieux. Il va retourner à Washington là, dans les prochains jours, alors qu'il a testé négatif là, dans les dernières heures.
Effectivement. Et sinon, ce soir, aux 22h, qu'est-ce que tu vas surveiller?
Ben, on va parler avec Jimmy Jean, économiste en chef du mouvement Desjardins, qui va nous parler de l'inflation, évidemment. On a beaucoup de questions pour lui ce soir.
Effectivement, ce sera bien intéressant. On sera au rendez-vous ce soir. 22h avec toi, Étienne.
Bye-bye.
Alors voilà, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci à toute l'équipe du 17h30. On se retrouve demain avec d'autres nouvelles. Passez une bonne soirée.